Au printemps de 1669, le roi Louis XIV écoutait un jour chanter la comtesse de Soissons. C'était, comme on sait, la seconde des Mazarines et la seule vraiment scélérate de la famille. Elle chantait une chanson nouvelle, en beaucoup de couplets et fort méchante, où défilait une partie de la cour. Hommes et femmes y recevaient leurs paquets sous la forme d'une
contre-vérité,
selon une mode alors si répandue que le mot
contre-vérité
était devenu le nom d'une forme de la satire, presque d'un genre littéraire. Le roi laissait passer les couplets sans souffler mot. Il n'avait même pas protesté à celui-ci.
Mais pour Monsieur le Grand, il est tout mystère quand il est galant.
La comtesse arriva ainsi à un couplet sur Puy-Guillaume, plus connu sous le nom de Lauzun.
De la cour, la vertu la plus pure est en Péguilin.
À cet endroit, le roi interrompit.
Si on a voulu le fâcher, dit-il, je trouve que l'on a tort et que, quand les gens agissent comme lui, ils ne se doivent inquiéter de rien. Mais pour les autres, on les traite fort mal.
Le brusque mécontentement du roi, au nom de Péguilin, fit un silence général et la chanson en resta là. La grande mademoiselle assistait à cette scène. Elle eut la surprise de ne pas s'y sentir indifférente. À peine, cependant, connaissait-elle Lauzun, qui n'était pas de sa coterie.
« Je pris plaisir,
disent ses mémoires,
à voir la manière dont le roi parlait de lui. J'avais quelque instinct de ce qui devait arriver. »
Ce fut le premier avertissement de la passion qui s'était déjà insinuée dans le fond de son cœur. Mais elle ne le comprit pas. Il lui vint pourtant l'idée de causer, à l'occasion, avec Monsieur de Lauzun. Elle y prit goût tout de suite.
« Il a, disait-elle, des manières de s'expliquer, toutes extraordinaires. »
Mademoiselle aimait cela, et comme elle croyait encore n'aimer que cela dans ce petit cadet de Gascogne, elle fut la première à se demander pourquoi, s'étant si bien trouvée depuis 5 ans, de peu fréquenter la cour. Elle reprit l'habitude de n'en plus bouger. L'année se termina sans qu'elle eût trouvé la réponse.
« J'allais donc,
au mois de décembre, le 6,
à Saint-Germain, d'où je ne partis point. Je m'y accoutumais fort. Je n'y étais d'ordinaire que 3 ou 4 jours. On s'étonnait du long séjour que j'y faisais. »
Le 31, elle se décida enfin à retourner à Paris.
« Je m'y ennuyais fort et je ne pouvais dire ce que je faisais à Saint-Germain qui me divertit plus qu'à l'ordinaire. »
Elle se hâta de rejoindre la cour sans savoir pourquoi, reprit ses entretiens avec Lauzun et ne comprit toujours pas. Elle savait seulement qu'elle était troublée et agitée, mécontente de sa condition, et qu'elle avait envie de se marier. Ce désir datait de loin, mais il avait pris, dans les derniers temps, une importunité qui obligea mademoiselle à s'examiner sérieusement. La page où elle raconte sa découverte est charmante de naturel, et comme on la sent vraie.
« Je raisonnais en moi-même, car je n'en parlais à personne, et je me disais, ce n'est point une pensée vague, il faut qu'elle ait quelque objet, et je ne trouvais point qui c'était. Je cherchais, je songeais, et je ne trouvais point. Enfin, après m'être inquiété quelques jours, je m'aperçus que c'était Monsieur de Lauzun que j'aimais, qui s'était glissé dans mon cœur. Je le regardais comme le plus honnête homme du monde, le plus agréable, et que rien ne manquait à mon bonheur que d'avoir un mari fait comme lui, que j'aimerais fort et qui m'aimerait aussi, que jamais personne ne m'avait témoigné d'amitié, qu'il fallait, une fois en sa vie, goûter la douceur de se voir aimer de quelqu'un qui valut la peine qu'on l'aimât.
Cet éclaircissement avec son cœur fut suivi de jours d'ivresse. Mademoiselle vivait dans un rêve et tout était facile, tout s'arrangeait.
Il me parut que je trouvais plus de plaisir à le voir et à l'entretenir qu'à l'ordinaire, que les jours que je ne le voyais point, il m'ennuyait. Je crus que la même pensée lui était venue, qu'il n'osait me le dire, mais que ses soins qu'il avait de venir partout où l'on se pouvait voir par hasard me le faisaient assez connaître.
En l'absence de Lauzun, elle cherchait la solitude afin de penser à lui en liberté.
J'étais ravi d'être tout seul dans ma chambre. Je me faisais un plan de ce que je pouvais faire pour lui, qui lui donnerait une grande élévation.
Une seule pensée, bien caractéristique de sa génération, venait troubler son bonheur. Elle se demandait si les grandes princesses du théâtre de Corneille auraient épousé un cadet de Gascogne. Assurément, la passion souffle où elle veut. Corneille ne l'avait jamais nié, mais il avait soutenu que la volonté nous rend maître de nos affections. Et l'on voyait aussi dans ses pièces que l'amour, même fondé sur une juste admiration, est tenu de s'effacer devant ce que l'on doit à son rang. Les poètes, heureusement, se contredisent quelquefois, même lorsqu'ils s'appellent Corneille et Mademoiselle, qui avait été à la comédie dès le maillot, connaissait bien son répertoire. Elle se souvint d'un passage de la suite du Menteur qui établit clairement
« La prédestination des mariages ou la prévision de Dieu,
de sorte qu'il est chrétien de se soumettre sans résistance à des sentiments qui nous sont envoyés par le ciel en personne. » Bien que sûre de sa mémoire, qui était excellente en effet, Mademoiselle envoya quérir la pièce à Paris en grande diligence et chercha la page, acte 4, où Mélisse confie à Lise son amour pour Dorante.
Quand les ordres du ciel nous ont fait l'un pour l'autre, Lise, c'est un accord bientôt fait que le nôtre. Sa main entre les cœurs par un secret pouvoir sème l'intelligence. Avant que de se voir, il prépare si bien l'amant et la maîtresse que leur âme au seul nom s'émeut et s'intéresse. On s'estime, on se cherche, on s'aime en un moment. Tout ce qu'on s'entend dit, persuade aisément et, sans s'inquiéter de mille peurs frivoles, la foi semble courir au-devant des paroles.
Comment douter un seul instant, après avoir lu ces vers, qu'il y ait de l'impiété à contrarier les ordres d'aimer qui nous viennent d'en haut ? Il se livra néanmoins de grands combats dans l'âme de la royale élève de Corneille. Tantôt, elle se représentait avec vivacité
les joies de son mariage, au premier rang desquelles mademoiselle plaçait le dépit de ses héritiers, qui commençaient déjà à trouver qu'elle les faisait trop attendre, et il lui tardait alors d'en finir. Tantôt, elle ne pouvait penser qu'au bruit que ferait une pareille mésalliance, à la réprobation des uns, à la risée des autres, et son orgueil refusait de se rendre, de sorte qu'elle voulait un jour et ne voulait plus le lendemain, selon qu'elle avait vu ou non Monsieur de Lauzun. La lutte entre sa tête et son cœur se prolongea plusieurs semaines. Enfin, après avoir souvent passé et repassé le pour et le contre dans ma tête, mon cœur décida l'affaire et ce fut au récollé que je pris ma dernière résolution. Jamais je n'ai été à l'église avec tant de dévotion et ceux qui me regardaient me trouvaient bien absorbé, car j'étais assurément tout occupé. Et je crois que Dieu m'inspira ce qu'il voulait que je fisse. Le lendemain, qui était le second jour de mars, j'étais fort gai. Si mademoiselle avait eu l'âge de Juliette, ce serait là un joli roman. Mais elle avait 43 ans. C'est bien tard pour jouer les grandes amoureuses. L'homme qui lui causait ses agitations est l'un des mieux connus de son temps. Il en est question partout. La singularité du personnage, jointe aux prodiges de sa fortune, en bien et en mal, en avait fait pour ses contemporains une façon d'objet de curiosité. C'est de lui que la Bruyère a dit « On ne rêve point comme il a vécu ». Le monde politique, ministre en tête, l'observait avec une attention inquiète, parce qu'il avait accompli le miracle de devenir le favori du roi, tout en ayant précisément les défauts que Louis XIV craignait le plus. Non pas sans doute un favori tout puissant, comme l'avait été par exemple le connétable de Luynes sous Louis XIII, mais d'assez de crédit, cependant, pour se faire combler de charges et d'honneurs. Antonin, non. Pas de Gaumont, marquis de Puy-Guillem, puis comte de Lauzun, était né en 1633 ou 1632, d'une très ancienne famille du Périgord. Ses parents avaient 9 enfants et rien à donner aux cadets. Mais leur belle parenté assurait à cette jeunesse des entrées et des appuis à la cour. Or, le troisième de leurs garçons, qui rappelait le petit poussé par la taille, en avait aussi la subtilité. Ils prirent le parti de l'envoyer chercher fortune, non pas dans une forêt, comme le héros du conte, mais aux alentours de la cour de France. Persuadé qu'avec son esprit, il ne se laisserait pas manger par l'ogre et croquerait plutôt les autres. Le maréchal de Gramont, cousin germain du vieux Lauzun, vit ainsi débarquer chez lui un tout petit bonhomme à la figure de chat écorché et à cheveux de filasse, qui prétendait avoir 14 ans. Était vif comme un moineau et gascon jusqu'au bout des ongles. Le maréchal le garda et pourvut à son éducation. En hiver, le petit allait à l'académie, apprendre à danser, à tirer des armes et à se servir d'un cheval. L'été, il faisait campagne dans un régiment de cavalerie, appartenant à son oncle. D'études, pas de traces. De lecture, pas d'avantage. L'ignorance complète était encore admise dans la noblesse, sans y être aussi bien vue. On pourrait presque dire aussi de rigueur qu'un siècle auparavant. Les parents de Lauzun l'avaient bien jugé. En peu de temps, il se fut faufilé partout, dans les maisons les plus imposantes et les chambres les plus sacrées. On l'aperçut chez le roi, on le rencontra chez les belles dames. La cour et la ville se familiarisèrent avec sa mine futée et hardie, qui tourna bientôt à la hauteur et à l'insolence. À 18 ans, son père lui céda une première charge. À 24, il eut un régiment. Puis, coup sur coup, quand le roi eut pris le pouvoir, des avancements, des grâces, un crédit toujours grandissant et inexplicable, qui lui valut la haine de Louvois, car, dans leurs fréquentes discussions à propos du service, le favori gagnait toujours. Un plat de son métier, inouï d'impudence, et qui aurait dû le perdre sans retour, n'aboutit qu'à lui prouver sa force. Dans le même temps où mademoiselle commençait à s'occuper de lui, l'insatiable petit homme avait tiré de son maître, sous la condition de lui garder le secret, à cause de Louvois, la promesse d'être bientôt grand maître de l'artillerie. Lauzun eut la sottise de ne pas savoir se taire. Louvois, averti, fit de fortes représentations au roi, qui se piqua et le favori n'entendit plus parler de rien. Dans son inquiétude, il s'adressa à Madame de Montespan. Elle était sa grande amie et lui promit son aide, mais il se défiait et voulait en avoir le cœur net. D'où une scène qui dépassa l'imagination de Saint-Simon lui-même. Lorsqu'elle lui fut contée longtemps après, il l'avoue dans ses mémoires qu'elle aurait été incroyable si elle avait été attestée de toute la cour d'alors. Louis XIV, comme la plupart des grands travailleurs, était ordonné et méthodique en tout. Il avait des heures fixes pour ses ministres et d'autres pour la représentation, des heures pour sa femme et d'autres pour ses maîtresses. On savait toujours où il était et ce qu'il faisait. L'heure de Madame de Montespan était dans l'après-midi. Lauzun s'introduisit chez elle avec la complicité d'une femme de chambre, se cacha sous le lit, attendit, écouta et en eut promptement le cœur net. Madame de Montespan ne l'oublia point dans la conversation, mais ce fut pour le draper, n'en finissant plus d'appuyer sur son mauvais caractère, son peu de sûreté, son arrogance envers Louvois, et le tout avec tant d'esprit, tant de drôlerie, que le roi, entraîné, lui répondait avec presque aussi peu de charité. L'autre, sous son lit, suait à grandes gouttes de rage et de contrainte. Enfin, le roi retourna à ses affaires et Madame de Montespan aux siennes, qui était de s'habiller pour assister à un ballet. Au sortir de sa toilette, elle trouva Lauzun à sa porte. Il lui présenta la main et lui demanda s'il osait se flatter d'avoir eu quelque part en son souvenir auprès du roi. Elle lui répondit qu'elle n'avait eu garde d'y manquer et lui étala tous les services qu'elle venait de lui rendre. Monsieur de Lauzun lui laissa tout dire, ayant soin seulement de la faire marcher à petits pas, puis lui dit, doux et bas, mot pour mot, tout ce qui s'était passé entre eux, sans y manquer d'une syllabe. Et de là, toujours doux et bas, l'appelle par tous les noms les plus infâmes, l'assure qu'il lui coupera le visage et la conduit, quoi qu'elle ait pu faire, jusque dans le ballet, où elle arriva plus morte que vive, se trouvant mal et ayant presque perdu toute connaissance. Le roi et elle crurent que ce ne pouvait être que le diable qui lui eut rendu un compte si prompt et si fidèle de ce qui s'était passé. Fort en peine, l'un et l'autre, et dans une colère horrible, ils n'avaient pas eu le temps de s'en remettre, que le favori faisait de nouveau des siennes. Deux jours après cet événement inexplicable, il vint casser son épée devant le roi, en criant qu'il ne voulait plus servir un prince, qu'il lui manquait de parole pour une... Le mot ne peut se répéter. La conduite de Louis XIV dans cette conjoncture est restée célèbre. Il ouvrit la fenêtre et jeta sa canne en disant qu'il serait fâché d'avoir frappé un gentilhomme. Le lendemain, Lauzun était à la Bastille et il semblait que ce fût pour longtemps. Avec un monarque qui n'avait de sa vie même enfant pardonné un manque de respect. Mais le public n'était pas au bout de ses étonnements. À la fin du second mois, c'était le roi qui tâchait de se faire pardonner et Lauzun qui le prenait de haut, refusant les dédommagements et préférant sa prison à la cour. On se représente ce que durent éprouver Louvois et bien d'autres devant cet étrange marchandage, ces allées et venues entre Saint-Germain et la Bastille pour obtenir de ce dangereux personnage qu'il daigna accepter l'une des charges si recherchées et par les plus grands seigneurs de capitaine des gardes du corps. On juge de leur alarme à son retour si prompt et suivi d'un redoublement de faveur. D'où lui venait son crédit auprès d'un prince si peu accessible aux influences et qui s'était toujours prétendu aussi contraire aux favoris qu'aux premiers ministres. En quoi ce petit Lauzun le méritait-il? Et en quoi méritait-il d'être la coqueluche des femmes qui couraient toutes après lui et se l'arrachaient à force d'avances et de cadeaux, tout petit poussé qu'il fût, car il n'avait pas grandi.
« C'est, »
écrivait Bussy Rabutin, « un des plus petits hommes que Dieu ait jamais fait. Il n'avait pas non plus embelli. » Nous pouvons là-dessus en croire, mademoiselle. Au plus fort de sa passion, voici comment elle dépeignait Lauzun à Madame de Noailles.
C'est un petit homme. Personne ne saurait dire qu'il n'ait pas la taille la plus droite, la plus jolie, la plus agréable. Les jambes sont belles, un bon air à tout ce qu'il fait. Peu de cheveux. Blond, mais fort mêlé de gris, mal peigné, et souvent gras. De beaux yeux bleus, mais quasi toujours rouges, un air fin, une jolie mine. Son sourire plaît, le bout du nez pointu, rouge, quelque chose d'élevé dans la physionomie. Fort négligé, quand il lui plaît d'être ajusté, il y est fort bien. Voilà l'homme.
Ce n'est pas séduisant. Il n'y avait pas de quoi le mettre aux enchères. On murmurait qu'il avait des secrets pour se faire aimer.
Pour son humeur et ses manières,
continuait mademoiselle.
Je défie de les connaître, de les dire, ni de les copier.
Le monde n'était pas entièrement de cet avis. Il croyait savoir, tout au moins, que M. de Lauzun était le plus insolent petit homme qu'on eût vu depuis un siècle et le plus malicieux. On citait de lui bien des traits sanglants et l'on connaissait sa façon de pirouetter sur ses talons et de plonger dans la foule avant que sa victime eût recouvré ses esprits.
Le monde avait aussi la certitude que le favori était un intrigant. Lauzun machinait toujours quelque chose, fût-ce contre des indifférents. Cela lui faisait la main. Pour le reste, mademoiselle avait raison. On s'y perdait. Il avait beaucoup d'esprit. On se répétait ses mots, par exemple sa réponse à une femme de ministre qui lui disait assez sottement, pour faire valoir la peine que se donnait son mari, « Il n'y en a point de plus embarrassé que celui qui tient la queue de la poêle. N'est-ce pas vrai ? Pardonnez-moi, madame, ce sont ceux qui sont dedans. » Mais il aimait à faire l'imbécile et à débiter d'un ton niais des choses n'ayant aucun sens. Il s'abandonnait à ce goût singulier, même devant le roi. Le contraste n'était pas moins grand entre ses prétentions à avoir grand air, son désir d'en imposer et l'habitude de se composer des accoutrements grotesques pour voir si quelqu'un oserait rire de Monsieur de Lauzun. On le trouvait chez lui en robe de chambre et grande perruque, son manteau par-dessus sa robe de chambre, un bonnet de nuit sur sa perruque et un chapeau à plumes sur le tout. Ainsi affublé, il se promenait de long en large en dévisageant ses domestiques et malheur à qui ne gardait pas son sérieux. Il était en même temps avare et libéral, ingrat et reconnaissant, méchant avec délices et toutefois bon ami, très bon parent sans jamais cesser d'être dangereux. Il entreprit une fois de pousser dans le monde un sien neveu, frais émoulu du Périgord. Il l'équipa de sa bourse et se donna la peine d'aller le présenter à la cour, où leur apparition fit événement. On se les montrait du doigt, et personne, pas même le roi, impassible par métier, ne pouvait s'empêcher de rire. Lauzun avait eu la fantaisie de faire habiller son neveu à la mode de son grand-père. Le pauvre garçon se sentait si ridicule qu'il en mourait de honte et qu'il s'enfuit de Paris sans plus oser se montrer. Son oncle n'y avait certainement pas mis de malice. Il ne s'était pas rendu compte. Il avait fait un grain de folie. Ce grain-là, quand il n'est pas trop gros, peut donner aux gens une saveur particulière. Il avait séduit mademoiselle, qui essayait vainement de le définir. À propos de Lauzun, elle se rabattait à conclure « Enfin, il m'a plu, je l'aime passionnément !» Le roi n'avait peut-être pas été insensible non plus à ce « je ne sais quoi », mais la vérité oblige à dire qu'il avait été séduit surtout par l'âme de parfait courtisan de ce demi-fou. La cour de France ne possédait pas plus servile devant le maître que le plus insolent petit homme qu'on eût vu depuis un siècle. Ce Gascon jouait à Louis XIV des comédies de dévouement et d'admiration, absolument étonné, et qui réussissait tout de même. Le roi s'était laissé persuader que Monsieur de Lauzun n'aimait que lui, ne vivait que pour lui, s'absorbait en lui, pour ainsi parler, et que le roi en avait été touché. Il trouvait cela bien. Il était prêt à beaucoup pardonner à l'homme qui donnait un si bon exemple aux autres courtisans. Lorsqu'on avait fait la part de l'originalité et celle de la bassesse dans la faveur de Lauzun auprès du prince, lorsqu'on s'en était rendu compte D'autre part, que Louis XIV n'échappait pas entièrement à la crainte inspirée par son favori, on continuait à se demander la cause d'une fortune si disproportionnée au mérite. Lauzun était en passe d'arriver à tout, quand le grain de folie le perdit.